Mémoire d'évêque en Pays Basque et Béarn, c'est le titre de l'ouvrage que vient de publier Mgr Pierre Moller. Mgr Pierre Moller, bonjour.
Bonjour.
C'est toujours un plaisir de recevoir notre évêque émérite dans les studios de Radio Lapourdie.
Mileshka.
Alors ce livre, c'est un gros livre qui fait 468 pages, où vous y racontez finalement, à travers vous, l'histoire du diocèse de Bayonne-Escaréau-Laurent entre 1986 et 2008. Époque où vous avez été évêque de Bayonne, Escar et Oloron. Mais avant, rappelons que vous êtes un Landais, vous êtes né à Dax le 21 novembre 1932, ce qui fait que vous aurez 89 ans le 21 novembre prochain. Vous approchez des 90 ans. Alors pourquoi avoir écrit ce livre de mémoire ?
D'abord, ce n'est pas pour faire mon apologie, parce que j'ai en tête le mot de Pascal, le moi est haïssable. Mais c'est pour donner, rendre compte d'une partie de la vie du diocèse dans une époque, il ne faut pas oublier le sous-titre, Mémoire d'évêque en Pays Basque et Béarn par tant de crises et de violences. Alors, ça n'a pas tout été tous les jours crise et violence, mais ça a été une bonne partie. Et malgré tout, c'est ça qui a été le fond dans lequel sur lequel j'étais. Voilà. Alors, c'est pour ça que je tenais à restituer cette partie, parce que la mémoire, souvent, s'effondre et se dissout dans les cendres de l'oubli.
Vous avez été ordonné prêtre le 14 avril 1962 pour le diocèse d'Erre et d'Aix, et tout de suite, vous avez eu des responsabilités à l'échelle du diocèse, comme responsable de l'œcuménisme, je crois.
Oui, responsable de l'œcuménisme, responsable du catéchuménat, et puis de l'aumônerie des maisons d'enfants handicapés, inadaptés. Voilà.
Juste avant d'être nommé évêque de Bayonne, pendant 12 ans, vous avez été archiprêtre de Mont-de-Marsan.
De Mont-de-Marsan, voilà.
Alors, est-ce que vous vous rappelez le jour où le nonce vous a appelé pour vous annoncer que vous seriez évêque de Bayonne, Escaréau-Laurent ?
Ce n'est pas le nonce, c'est une lettre. Un lundi. Où les vicaires, mes collaborateurs, étaient absents, où je prenais le courrier. Et j'ai pris un courrier, un peu lourd, de l'Annonciature. Et je me disais, c'est le nonce qui remercie pour les quêtes que nous avons faites, pour le denier de Saint-Pierre. Et puis, il y avait une autre lettre dans cette lettre, avec sous le secret pontifical. Voilà. Alors j'ai lu ça, et j'ai lu « Monsieur le curé », Monseigneur Vincent ayant atteint la limite d'âge, le Saint-Père vous a nommé comme évêque de Bayonne pour son remplaçant. Veuillez me dire votre réponse. Pour le moment, respectez le secret et simplement dites-le simplement à votre confesseur. J'ai cru à une farce, vraiment. J'ai cru à une farce et j'ai mis la lettre à la poche et je me suis dit, comme je vis avec des jeunes prêtres et chacun avait été très au courant des nouvelles technologies, je me suis dit, c'est l'un qui a reçu une lettre en tête de l'Annonciature et voilà.
Vous étiez dit que c'était un faux.
Et voilà, je me suis dit, c'est un faux. Et puis finalement, c'était Mgr Sarabert que je suis allé voir, a lu très longtemps cette lettre. Il a replié très précautionneusement à la Béarnaise en quatre et il m'a dit, il y a 11 ans, j'ai reçu la même lettre. Ça veut dire, ça veut dire que tu es nommé évêque de Bayonne. Voilà.
Alors vous êtes nommé le 21 janvier 1986 évêque coadjuteur de Bayonne par le pape Saint Jean-Paul II.
Jean-Paul II.
Et vous avez été consacré évêque à la cathédrale de Bayonne le 2 mars 1986. Et là, je suppose que vous vous êtes dit, l'Esprit Saint a beaucoup d'humour, nommé en Landais au Pays Basque.
Non, parce que je suis le dernier prêtre d'un évêque d'origine basque, Mgr Clément Mathieu d'Asparin. Et je me suis dit, ça doit être un signe de filiation, voilà. Mais voilà,
en général, quand on nomme un évêque, on se renseigne sur lui, et notamment le ministère de l'Intérieur. Donc, pour vous, tous les voyants étaient verts pour que vous soyez, pour que vous deveniez évêque de Bayonne.
Alors ça, je ne sais pas, parce que dès que j'ai été nommé, j'ai dû garder le secret. Et d'habitude, c'est un mois. Or là, ça a duré 2 mois. dans le ministère de l'Intérieur à partir des documents qu'il recevait de la préfecture de Mont-de-Marsan. Voilà, ça a duré 2 mois en tout cas. Et c'était long, comme je vivais en équipe, c'était très long de garder ce lourd secret avec tous ces prêts. J'avais les aumôniers de lycée avec moi, et mes coopérateurs. Voilà.
Et vous avez tenu bon, vous avez gardé le secret.
J'ai tenu bon.
Quel est le souvenir ou les souvenirs de votre ordination épiscopale le 2 mars 1986 à la cathédrale de Bayonne? Il pleuvait.
Alors, premièrement, 2 mauvais souvenirs. Après, je dirai les bons. Le premier souvenir, c'est le longtemps que l'on nous a fait stationner dans le courant d'air, sous la pluie, sous le porche, même avant le porche. J'ai pris une fluxion. En gros, j'ai été veillé 8 jours de maladie par mon prédécesseur. Et après, la deuxième chose, c'est que je devais dire un mot à la fin de la cérémonie. Et toute la célébration, je me suis dit, qui a ce mot? Jusqu'au dernier moment où je suis arrivé au pupitre, je n'ai pas su où était mon papier. Et c'est à l'ultime seconde qu'un prêtre de Dax m'a remis. Je l'aurais croqué. Voilà mes mauvais souvenirs, mes souvenirs de l'ordination épiscopale.
Alors les bons maintenant?
Mais les bons, c'est que j'étais émerveillé de ce que je voyais, de cette belle cathédrale, et puis aussi de ce peuple que j'entendais vibrer. Ça m'a beaucoup frappé. Il y avait 4000 personnes en état de vibration et de prière aussi. Voilà.
Alors ça, c'est l'état de grâce quand on arrive dans un diocèse, et puis après, très vite, commencent les ennuis, on va dire ça comme ça. Votre livre, il y a plusieurs parties, il y a une grande partie consacrée au Pays Basque, avec 5 chapitres. Deuxième partie consacrée au Béarn, avec 3 chapitres. Une troisième partie consacrée à la vie diocésaine, et il y a une quatrième partie consacrée à la vie hors diocèse. Mais dans la partie Pays Basque, donc à la page 23 de votre livre, vous intitulez un paragraphe « Choc ». Alors, de quoi s'agit-il?
Ce sont les chocs de la société à ce moment-là. L'impact de ces chocs sur toute société, et donc la société basque, basco-béarnaise. Hein, on était après les 30 Glorieuses, après le traumatisme des guerres d'Algérie et du Vietnam. Après, il y avait l'emprise de la modernité et ses conséquences économiques, éthiques, spirituelles. Et puis la brutalité de la crise économique de ces dernières années après les 30 Glorieuses. Et puis après, on était après le Concile Vatican II, où après, il y avait, après l'euphorie qu'il avait suscité, il y a eu quand même le retour à la réalité. Il y a eu beaucoup de chocs comme ça. Et finalement, ce sont ces chocs qui, peu à peu, ont propulsé toute la société, et donc le diocèse, toute la société a une autre époque. L'époque du numérique, l'époque de la robotique, l'époque de la pandémie, voilà. Des choses nouvelles qui font que nous sommes maintenant dans une autre époque qui formate la structure de pensée des jeunes générations.
Vous arrivez à Bayonne, à Pau, dans le diocèse, et vous observez.
Oui.
C'est votre première attitude, finalement, en tant qu'évêque, c'est observer comment fonctionne l'Église ici, comment fonctionne la société, que ce soit en Béarn, en Pays Basque. Qu'est-ce que vous tirez de ces premières observations?
Alors, la première observation que je faisais, moi venant de Dax, du diocèse de Dax, c'était l'hypercléricalisation de ce fonctionnement de l'Église en Pays Basque. Il y avait comme un double système de représentation cléricale. Il n'y avait pas de laïc au levier de commande. Et donc, ça me frappait beaucoup. Et d'une certaine manière, je me disais qu'à Dax et à Mont-de-Marsan, nous étions un peu à l'avance. Voilà ce que je me disais en moi-même, que je n'ai jamais dit à cette époque-là. Mais enfin, c'était ça que je pensais.
Quand vous arrivez dans le diocèse, il y a combien de prêtres en activité?
Il y avait 410 prêtres, c'est pour ça. 410 prêtres, mais beaucoup sont morts après, parce que dans ces 410, il y avait des prêtres très âgés et des prêtres enseignants qui étaient à la retraite.
Alors, on va pas pouvoir tout raconter, parce que le but, quand même, c'est que les gens achètent votre livre, puisqu'ils vont retrouver tout ça, Monseigneur Moller. Mais parlez un peu, quand même, de vos principaux collaborateurs. Je veux parler des vicaires généraux, qui sont déjà en fait en place du temps de Monseigneur Vincent et que vous reconduisez.
Voilà. Il y avait, bien sûr, d'abord Jean-Hyrière Ruti, qui était un homme remarquable, silencieux comme un basque, un réservoir de silence, je dis. Un moine de l'intelligence qui disparaissait le vendredi soir, pour reparaître le lundi matin, mais entre-temps, il avait rédigé, mûri, élaboré un éditorial chargé de vulgariser le Concile Vatican II dans le peuple basque. C'était remarquable. Et tous les matins, nous concélébrions ensemble la messe, et après, je le gardais au petit déjeuner, et là nous avions un échange très profond où, à mots très mesurés, toujours très, très sobres, il me faisait entrer dans le mystère de la basquitude. Voilà. Et pour moi, je garde de ces contacts un souvenir très profond.
Et en Béarn, qui est vicaire général.
Et en Béarn, c'était Charles Bins, qui était un homme corpulent, travailleur, sérieux, avec beaucoup une expérience d'action catholique spécialisée. Il avait été aumônier des jeunes du monde rural béarnais. Il avait connu l'apothéose, 12 000 jeunes encadrés par 12 000 adolescents encadrés par 1500 jeunes à Orthès. Et c'était vraiment... Et c'était la JAC à ce moment, Jeunesse Agricole Catholique. Et alors, il restait sur cette vision de là.
Très vite, c'est la question basque, du côté Pays Basque, qui va s'imposer. Vous arrivez des Landes, vous n'y connaissez absolument rien, que ce soit au parti politique, que ce soit du Pays Basque Hegoaldé, du Pays Basque Sud. Donc pour vous, c'est une vraie découverte, cette question basque.
Oui, c'est ça. Alors, malgré tout... la Providence, je le dis bien après coup, c'est que j'ai découvert dans les Landes des conseillers inattendus. Parce que j'allais à Buglose, j'avais un ami qui était curé de Buglose, un ancien vicaire général, qui avait aussi un bon sens très, très profond et très concret. Et il y avait un prêtre basque qui, vu sa santé, avait été admis dans le diocèse de Dax, l'abbé Iratchet de Bidaraï, qui lisait chaque jour la presse basque en basque. Et tous les lundis, il m'informait. Et c'est lui avec lequel j'étais le plus libre, puisque c'était en dehors de mon diocèse. Et il m'a mis au courant des syndicats, des partis politiques basques. Peu à peu, il m'a dit tous les courants qui s'affrontaient. Et c'est pour cela qu'il m'a été très utile.
Alors dans votre livre, vous relatez les différentes occupations qui se sont produites à la cathédrale de Bayonne.
Pendant 10 ans, deux par an. Il y a comme une espèce de loi qui fait que deux fois par an, c'était dans le programme de ceux qui téléguidaient ça, de l'extérieur. Et alors, quand même, c'était quand même quelque chose. Je considérais ça comme une mise en otage. On était comme pris en otage. Mais enfin, j'observais, c'était beaucoup de jeunes, dont des gens généreux qui étaient dans le mythe, mais en même temps qui essayaient de s'engager, de secouer un peu la torpeur de leurs congénères basques.
Vous dites que vous êtes toujours refusé à faire intervenir la police.
Oui. J'avertissais la sous-préfecture, ça c'est mon devoir. Mais je leur disais, je ne vous demande pas votre aide, mais je disais à ceux qui occupaient la cathédrale, à deux conditions. Premièrement, que vous observiez la sécurité des gens et la liberté de conscience. Voilà. Et ils l'ont fait. Et ce qui fait que, malgré tout, nous avons eu un échange assez fructueux.
Monseigneur Moller, Est-ce que vous étiez un évêque sous pression à cette époque ?
Ah non, pas du tout. Parce que j'ai eu la chance de me dire tout de suite, dès qu'il y a un coup dur, alors que je connais mon tempérament qui est un peu impulsif, d'aller à la chapelle et pendant 10 minutes, je restais en silence, voilà, devant le Seigneur, et pour prendre la distance qu'il faut avec l'événement. Puis après, je téléphonais ou à Shalbat ou à des conseillers proches.
Alors Shalbat, c'est...
Shalbat Berterech, qui...
Vous aviez nommé...
Comme conseiller particulier pour les affaires basques. Conseiller, voilà.
Donc vous étiez entouré d'une petite équipe, donc ces prêtres qui... Oui.
Et je m'en suis...
Qui lisaient la presse en basque, c'est quoi?
Oui, et puis surtout qu'il y avait le bon sens et la mesure qu'il fallait devant ces événements qui étaient quand même... qui déchaînaient des passions, des partis politiques, du petit commerce, des chanoines de la cathédrale, enfin, de tout ce monde-là, et puis des partis politiques aussi. Ceux de droite, ceux de gauche, ceux de droite qui trouvaient que j'en faisais trop, ceux de gauche qui trouvaient que je n'en faisais pas assez. Enfin, il y avait tout ça.
Donc, je rappelle que vous avez publié « Mémoire d'évêque en Pays Basque et Béarn ». Donc, dans votre livre, vous évoquez une nuit tragique de la fête Dieu. C'est un très mauvais souvenir, ça.
Bien sûr. Ça a été un moment terrible parce qu'un jeune gendarme poursuivait une jeune fille qui était une militante basque soupçonnée d'attentat. Et il l'a poursuivie. Et au moment de l'atteindre, le train, sur la voie ferrée, le train les a fauchés tous les deux et les a entraînés tous les deux dans la même mort. C'est pour ça, c'était le soir de la fête Dieu et j'ai rédigé tout de suite un communiqué « Fête Dieu et train d'enfer » où je disais quand même le malheur que c'était de voir deux jeunes du Pays Basque en grande concurrence et fauchés par la même mort. Et je me disais, ça ne peut pas être ça la perspective pour la jeunesse basque. C'est une perspective de mort violente, en total désaccord. Ça ne peut pas être l'avenir de la jeunesse du Pays basque. Et ça m'a guidé tout le temps. Ça a été le cap de ma politique, si on peut dire.
On ne peut pas parler de tout, mais vous évoquez aussi... La perquisition à l'abbaye de Belloc en 1987, l'arrestation du curé d'Espelette, l'abbé François Garat, en 1992. Donc, vous racontez un peu comment vous avez vécu tous ces événements. Et puis, il y a aussi, c'est un peu, j'allais dire, les coulisses de l'évêché avec vos rencontres avec les préfets, les sous-préfets et même les ministres de l'Intérieur.
Oui. Alors, ce ministre de l'Intérieur, nous lui devons beaucoup. Nous lui devons le renouveau de l'embellissement de la cathédrale.
Parce c'est Pierre Jox, ce ministre.
Pierre Jox. J'étais au fond du Béarn en visite pastorale. Le préfet me téléphone en disant « Monseigneur, monsieur le ministre voudrait vous voir ». Je lui dis « Impossible, je suis en visite pastorale ». Parce que pour moi, toutes les affaires politiciennes passaient après le côté pastoral de ma vie. Mais il m'a retéléphoné, il m'a dit absolument, il veut absolument vous voir. Et donc, à ce moment-là, j'ai téléphoné à François Garat. Et François Garat m'a dit, je lui ai dit, écoute François, je vais voir le ministre, quelles sont les choses les plus importantes que si tu étais à ma place, tu lui demanderais. Il me les a dites. Et c'est ça que j'ai dit au ministre. Et le ministre, alors je lui dis, monsieur le ministre, je crois que ces mesures, si vous les preniez, elles vous coûteraient moins cher que 4 escadrons de policiers. C'est bien mon avis, a dit le ministre. Et il les a tenus. Et donc, voilà.
Dans votre livre de mémoire, Monseigneur Moller, il y a tout un chapitre sur le temps des visites, bien sûr. Les visites ad limina au pape Jean-Paul II à l'époque. Quel souvenir de la première visite à Limina, c'est en quelle année?
Alors, le pape Jean-Paul II, je lui ai dit l'état du diocèse, et en particulier du Pays Basque. Il m'a écouté très attentivement. Je pense à lui rappeler, lui, polonais, les affaires qu'il avait dû certainement vivre d'une autre manière, mais de façon analogue. Et il m'a dit, heureusement qu'il y a des évêques sur le terrain qui savent ce qu'il faut faire. Ça m'a mis beaucoup de baume dans le cœur, parce que je sentais que cet homme me comprenait. Il avait une vision géopolitique très importante du monde, et en même temps qu'une vision spirituelle. Et donc, sans me dire « allez-y », il était quand même très bon pasteur. Cette intervention, de façon très positive.
Parlons un peu du Béarn quand même. Vous dites que les Béarnais sont féaux et courtois. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Féaux, ça ne veut pas dire faux. Ça veut dire fidèle. Et ça, il faut quand même rendre justice, parce que je trouve que c'est quand même faire un mauvais procès aux Béarnais de dire qu'ils sont faux et courtois. Ils sont fidèles et courtois, mais fidèles à leur façon. C'est-à-dire une manière quand même d'un peuple, d'un petit royaume. N'oublions pas que le Béarn a été un petit royaume pendant 100 ans au moins, et coincé entre deux grands voisins, le voisin français et ibérique. Et il a fallu qu'il se faufile, qu'il prenne des chartes, des compromis, des sinuosités pour se faufiler entre les deux. C'est cela que sa fidélité suppose, des sinuosités.
Vous parlez des Béarnais entreprenants.
Bien sûr. J'ai trouvé, par exemple, je cite le cas d'un entrepreneur chrétien, mais très, très intelligent et très actif, qui a créé 60 emplois dans son gros bourg. C'est pas rien, 60 emplois. Jambon de Bayonne, en plein Béarn. C'était une usine où l'on prenait le cochon, d'abord, et puis il se vendait après en pâté, etc. Et après, il avait créé, c'était génial ça, un musée du cochon, où l'on apprenait beaucoup de choses sur le cochon, sur l'histoire du cochon, etc. Alors, j'ai visité cette usine pendant 2h30. C'était un homme qui était le directeur général de l'entreprise. Ce n'était pas l'inventeur, le propriétaire, mais c'était le directeur. Et je l'avais ordonné diacre, Bertrand Écomard. Et donc, il m'a fait visiter cette usine. C'était très intéressant. Et pour moi, c'était typique de l'inventivité béarnaise.
En Béarn, ce qui occupe aussi à cette époque, c'est la fermeture de lacs.
Oui. Alors, parce qu'il n'y a pas que l'artisanat ou les choses comme ça, la petite industrie. En Béarn, il y avait la grande industrie, et donc l'usine de lacs, pendant que j'étais là en fonction, il y a eu le tarissement du gaz de lac, et donc les retombées. Et avant ça, il y a eu des remous sociaux, parce que même si le gaz de lac a été pour le Béarn une manne providentielle dont ils ont profité, et surtout eux, et pas le Pays Basque d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas encore la quatre voies. Et pour moi, la quatre voies, suscitée par Jean Grenet, le maire de Bayonne, qui a su voir l'importance pour le Pays Basque sur le plan économique d'une quatre voies reliant Bayonne à Pau et Pau à Bayonne. Pour moi, ça a été une des raisons, le retard de cette quatre voies, une des raisons du repli du Pays Basque sur lui-même. Une des raisons. Cela dit, on ne l'entend pas souvent dire cela, mais enfin, je le croyais. Et alors là, il y a eu des remous sociaux très violents, parce que le gaz faisait son effet maléfique, il y avait des cancers, c'était devenu irrespirable. Voilà. Il y a eu des remous sociaux très importants que j'ai soutenus, parce qu'il y a eu en même temps des licenciements au moment, la semaine même, où le directeur de l'usine affichait des milliards de bénéfices. C'était intolérable pour les travailleurs. C'est ce que j'ai dit en communiqué. Voilà.
Nous marquons une courte pause avant de retrouver l'évêque émérite du diocèse de Bayonne-Escar et Oloron, Mgr Pierre Moller, qui vient de publier ses mémoires aux éditions France Libris au prix de 23 euros. Pour 468 pages, nous retrouvons Mgr Moller dans quelques instants. Nous retrouvons Mgr Pierre Moller qui vient de publier un livre, Mémoire d'évêque en Pays Basque et Béarn. C'est publié chez France Libris au prix de 23 €, 468 pages. Alors Mgr Moller, tant pour le Pays Basque que pour le Béarn, vous nous proposez dans votre livre, ça peut paraître un peu curieux dans un livre de mémoire, mais vous avez tenu à faire le portrait de personnalités du Pays Basque et du Béarn, à commencer par les saints du diocèse.
Oui, parce que pour moi, je ne voulais pas faire œuvre d'historien qui scrupuleusement, méthodiquement, fait la liste de tous les grands personnages du Pays Basque ou du Béarn, mais ceux qui m'avaient influencé d'une manière ou d'une autre, et qui ne sont pas vivants, mais qui étaient déjà, faisaient partie de l'histoire. Alors bien sûr, il y a le cardinal Echegaray, le cardinal Lavigerie, des gens comme ça, le père Sestac, Saint-Michel Garicolz.
Et cardinal Pierre Haït.
Ça, c'est du Béarn. Pour le Béarn.
Mais il y a même l'émir Abdelkader.
Ah oui.
On est un peu surpris quand on voit ce portrait dans votre livre.
Justement, il n'est ni basque ni béarnais, il est musulman et il est algérien. Alors, pourquoi? Parce qu'il a été 6 mois en détention à Pau. Et une détention qui était finalement un peu exagérée, en ce sens que le gouvernement français avait promis de l'exiler dans un pays musulman, ce qu'il n'a pas fait à cause des remous sociaux, des changements de régime qui a eu lieu en France. Et Abdelkader, de façon très chevaleresque, a reproché à la France cela, mais il n'en a pas tenu rigueur. De telle manière que lorsque les chrétiens de Damas ont été persécutés et tués par les Druzes, Abdelkader, dans son palais, en a accueilli au moins 1 000 000. Ce qui fait que l'évêque d'Alger est allé le remercier. C'était un homme de grande spiritualité, c'était bien sûr un musulman, mais c'était un honnête homme aussi, qui a profité de ces épreuves pour réfléchir en profondeur et pour ne pas tenir gré à la France de sa félonie.
Mgr Pierre Moller, dans votre livre, le chapitre 3 est consacré à la vie diocésaine. Et finalement, ce qui aura été votre grande affaire pendant votre épiscopat, ce sont les 2 synodes diocésains. Le premier démarre en 1992. Alors pourquoi avoir fait 1 synode?
Et même 2. Donc pour moi, le synode, c'était comme une grande révision de vie. Parce que j'ai toujours senti, dans le diocèse, moi qui venais de Dax, il y avait dans ce grand diocèse, qui est le diocèse de Bayonne, où il y avait à l'extérieur un clergé, des chorales, tout ça, magnifique, mais c'était un peu du tape à l'œil, tout ça. Il me semblait que secrètement, il y avait une anémie spirituelle qui se faufilait, une espèce de la jeunesse dont la générosité était aspirée par cette religion séculière qu'est le nationalisme. Et donc, je me suis dit, il faut un grand coup pour relancer dans le diocèse et aux Pays-Bas et en Béarn, pour lancer l'Église à la suite de Jésus. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de lancer, le synode, par des chemins différents et multiples, faire que les chrétiens motivés se rassemblent et se remettent à croire à l'Église et à faire l'Église, à faire Église.
En 1992, le premier synode a bien fonctionné. C'est 30 000 personnes qui ont participé.
Oui.
Le deuxième, un peu moins quand même.
Oui, le deuxième, ça a été la fatigue, la lassitude. Mais malgré tout, il y a eu des choses qui se sont faites dans les 2 synodes, même si tout n'a pas été parfait. Pour moi, vous savez, je ne veux pas faire croire que ça a été le synode avec grand S, mais ça a été l'occasion pour des chrétiens de se retrouver non seulement par chrétiens du Pays Basque ou chrétiens du Béarn ou chrétiens de Gascogne, mais par thème qui rassemblait les gens qui le voulaient, qu'ils soient basques ou béarnais. Et ça a été une des réussites où des gens de bonne volonté se sont retrouvés. Voilà. Et il y a eu quand même 4 ou 5 orientations qui étaient importantes et qui restent toujours de mise, même si on n'appelle pas ça un synode, mais enfin ça reste la réalité du diocèse.
C'est un mot qui revient beaucoup à la mode avec le pape François.
Oui, bien sûr.
L'église synodale.
Ah oui, l'église synodale. Et puis en même temps, ce sont des gens qui pensent que ce n'est pas, que l'église n'est pas faite que de prêtres, mais c'est l'église... C'est un peuple qui est différencié et chacun à sa place, à sa fonction. Voilà, c'est pour ça.
Ensuite, en 1998, il y a eu le remodelage paroissial. Donc là, de 400 paroisses, on passe à 69, je crois. Ça a été compris à ce moment-là. Comment vous l'avez vécu, vous ?
Oui, ça a été compris. Mais pour moi, cette réforme, qui est une véritable réforme qu'il fallait faire, c'est pour moi, c'est pas pour moi le, ce qui a été quelque chose de, une formule magique après quoi, après laquelle tout était bien et merveilleux. Non, ça a été quelque chose de technique, même s'il y a eu une pensée pastorale profonde, remodeler les paroisses en fonction de leur habitude économique, politique, culturelle, par exemple.
Des bassins de vie.
Et voilà, des bassins de vie, voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit... C'est... Alors, il y avait quand même des exceptions, parce que c'est là que l'on voyait la mémoire collective qui joue. Par exemple, entre Cibourg et Saint-Jean-de-Luz, on a beau les mettre ensemble, il y a toujours des différences, voilà. Urugne aussi.
Alors ensuite, vous parlez aussi de certains événements plus particuliers liés à la vie du diocèse. Et puis il y a toute une partie sur les visites, les voyages que vous avez réalisés en dehors du diocèse, et notamment en Afrique, avec, je pense, notamment à l'ordination de Michel Kartategui, qui a été un grand moment pour vous, et pour lui surtout.
Ah oui. L'ordination de Kartategui a été pour moi une date, parce que c'était quand même un jeune d'ici, d'Asparin, envoyé, qui est resté en Afrique longtemps, et qui a appris la langue, et qui s'est fait aimer des gens, et puis qui a été normalement nommé évêque de Niamey. Et voilà. Et là, on a vu, dans son ordination, il y avait 4000 personnes, dont 500 chrétiens seulement. Les autres étaient tous musulmans, donc la liturgie s'est adaptée et elle a beaucoup insisté sur la liturgie de la parole avec un griot qui a rassemblé c'était très beau.
Et c'est des moments inoubliables.
Ah oui.
Alors il y a ensuite ce pèlerinage aussi en Inde, à Goa, sur les traces de Saint François Xavier.
Ah oui, ça c'est. Moi, ce qui m'a émerveillé, c'est la foi des chrétiens d'Orient et une foi très vive, très ardente au sanctuaire de Saint Thomas, où Saint Ignace de Loyola était allé se recueillir pour savoir s'il fallait qu'il continue jusqu'au Japon ou s'il fallait qu'il reste en Inde. Et Saint Thomas lui aurait dit « Vas-y, vas-y ». Voilà, c'est quand même l'impulsion missionnaire d'aller vers les autres, vers l'inconnu, vers le risque de la foi, c'est ça. Pour ça, le voyage en Inde a été pas simplement un voyage, c'est une aventure spirituelle.
Dans votre livre aussi, vous rappelez que vous avez été le président de la mission de la mer pour l'épiscopat français.
Ça m'a beaucoup apporté, parce que moi j'étais un homme de la forêt landaise, je vivais dans la forêt, mon décor c'était la forêt, ou la mer, l'océan Atlantique, mais ce n'était pas la mer habituelle pour moi. Et j'ai dû tout apprendre, et apprendre... Des matelots. Nous avions une équipe nationale où il n'y avait pas que des officiers de la marine marchande, mais il y avait d'humbles matelots qui nous disaient la vérité de leurs conditions de vie dans des rafiots qui étaient des cercueils ambulants. Et alors l'un a fait naufrage, plusieurs ont fait naufrage, tout ça, et ont pollué la mer. Et nous avons protesté contre ça.
Alors, Monseigneur Moller, on pourrait encore beaucoup parler du livre que vous venez de publier, vos mémoires, mais on va devoir s'arrêter. Je n'ai pas dit quand même, au début de l'émission, que vous êtes parti au Pays Basque Sud, à Lazkao, pour apprendre le basque et que ça vous a coûté. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
D'abord, bien sûr, ça m'a coûté. Chaque fois que je partais de Bayonne à Lazkano, je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai passé mes vacances pendant 10 ans à ne faire que du basque pendant un mois. Et alors là, j'ai appris à méditer sur le fonctionnement de la langue basque, sur la logique interne. J'avais appris ça d'ailleurs de mes maîtres de Sorbonne, qui, par le grec et le latin, nous faisait méditer sur la logique d'une langue. Et là, je l'ai fait en Pays basque, et ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a appris des choses sur les réactions des Basques vis-à-vis de l'absolu, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des rapports hommes-femmes.
Alors, vous dites aussi dans votre livre, en parlant du Pays Basque, c'est la radio chrétienne du Pays Basque, Radio Lapourdi, c'est pour ça qu'on va finir quand même sur le Pays Basque. Vous évoquez le premier pèlerinage à Arantzazu en 2002, et je vous cite dans votre livre, vous dites: Je me sentais leur évêque.
Ah oui, tout à fait. Parce que, je vais vous dire pourquoi, par des choses très simples. Je ne voulais pas porter mon casse-croûte. Il fallait porter son casse-croûte. Je ne voulais pas porter mon casse-croûte. Je savais tellement qu'on m'inviterait. Donc j'étais un peu pique-assiette. Mais chaque fois, ça m'a beaucoup apporté. Parce que de très braves gens venaient, venez manger avec nous, tout ça. Et j'étais de plein pied avec ces gens-là. Et qui me disaient un peu leur façon de vivre. Les ennuis avec les enfants, tout ça, voilà, les maladies qu'ils avaient, voilà, et la situation qu'ils avaient ou qu'ils n'avaient pas. Voilà. Et c'était une très belle journée de prière et de contact.
Vous dites à propos de ce pèlerinage à Arantzazu, il y avait là toute une vie populaire qui me rappelait ce que vivait le Seigneur quand il allait manger avec des gens très simples. C'était aussi l'occasion de rencontrer le peuple d'une manière tout à fait différente.
Ah oui,
Est-ce que ce n'est pas un aveu que vous étiez peut-être un peu trop dans votre évêché?
ah ben bien sûr, on est toujours, quand on est évêque de Bayonne, Lescar-et-Oloron, quand vous êtes à Bayonne, vous vous dites, ah, il faudrait que j'aille à Lescar-et-Oloron. Quand vous êtes à Oloron et à Lescar, vous dites, il faudrait que je revienne à Bayonne. J'ai toujours été entre ce va-et-vient qui prend beaucoup de temps.
Est-ce que ce ne serait pas plus simple qu'il y ait un évêque à Bayonne et un évêque à Lescar ou à Pau?
Alors après, je vais vous dire une chose tout à fait insolite. Je crois que, bon, ça, c'est de la technocratie. Bon. Mais il me semble que les Basques et les Béarnais ont pris l'habitude, même s'ils sont très différents culturellement, ont pris l'habitude de s'affronter ensemble, qui ne peuvent plus vivre les uns sans les autres. Alors, du point de vue économique, hein, et politique, voilà. Et alors, finalement, ils ont pris l'habitude en gascon, on dit, de se gnaquer, de se grignoter, voilà, de s'affronter. Mais moi, il me semble d'abord que, personnellement, je n'ai pas trouvé de grandes différences pour animer le Pays Basque et le Béarn,
Au niveau ecclésial.
même s'il y en a beaucoup.
Un interlocuteur, vous racontez ça dans vos mémoires, un interlocuteur qui vous pose la question, est-ce que vous préférez le Béarn et le Pays Basque? Qu'est-ce que vous lui répondiez?
Et je lui répondais, de quel Pays Basque et de quel Béarn me parlez-vous? Parce que le Pays Basque, il y en a au moins deux ou trois ou quatre. Parce qu'il y a le Pays basque côtier, le Pays basque de la montagne, le Pays basque d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Et puis il y a le Béarn de Pau, de Lescar, d'Oloron, des Valais. Il ne faut surtout pas planifier. Pour moi, je disais à mes collaborateurs, méfions-nous de tout planifier. Parce que c'est important de voir qu'il y a des divers pôles d'activité, d'ingéniosité, de créativité. Par exemple, à Artix, à Lescar, à Oloron, à Bayonne, à Saint-Jean-Pied-de-Port, voilà, à Sparin.
Monseigneur Père Moller, dans l'épilogue de vos mémoires, vous dites que vous pouvez distinguer votre épiscopat le temps des turbulences sociopolitiques et de vos prises de position, le temps des grandes heures synodales et du remodelage du terrain pastoral, on en a parlé, celui des épreuves dues aux mutations rapides, à la défection des ministres ordonnés, à la disparition d'êtres chers, à la fermeture du séminaire. Ça a été un crève-cœur de fermer le séminaire ?
Oh oui, bien sûr, bien sûr. Mais je vais vous dire une chose qui m'a beaucoup et spirituellement soutenu. Un jour, je priais et j'ai eu le sentiment que quelqu'un me disait « Le Messie est déjà venu et ce n'est pas toi. Le Messie est déjà venu et ce n'est pas toi. » Ça m'a fait un grand bien, une grande détente spirituelle. C'est-à-dire que l'évêque ne doit pas croire que tout est de son ressort absolu, qu'il a tous les leviers de commande en main. Non, il doit se dessaisir auprès de l'Esprit-Saint et lui dire « Je fais le moins mal, le mieux que je peux faire, à toi d'agir avec moi, si tu le veux, ou par d'autres que moi. » Ça a été le cas pour Radio La Pourtie, où d'abord j'ai été très réservé par rapport à cette initiative qu'avaient prise mes collaborateurs et qui ont signé sans moi.
Et ça peut se faire, ça, signer sans l'évêque ?
C'est-à-dire, mais c'est parce que c'était mon vicaire général avec qui j'avais grande confiance, mais qui, lui, a vu très vite l'importance de ce projet.
C'était l'abbé Camino.
Voilà, Joseph Camino.
Oui. Alors, vous parlez aussi des joies ecclésiales dues aux initiatives du Pape, ses encycliques, aux nombreuses ordinations de prêtres. Est-ce que vous savez combien de prêtres vous avez ordonnés pendant votre épiscopat ?
Non, mais une quinzaine, au moins.
Puis les différents pèlerinages, on en a parlé. Alors, votre livre, il se termine par la description de votre blason épiscopal. On n'a pas dit, justement, on n'a pas évoqué votre devise épiscopale. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler ?
Alors, en latin, Agnum diligendo, fratres confirmare. En préférant l'agneau de Dieu, confirmez mes frères dans la foi. C'est une allusion à deux épisodes bibliques. L'un où le Seigneur réprimande Pierre qui fanfaronne et qui lui dit « Quand tu seras revenu, je prie pour toi, quand tu seras revenu de ton reniement, affermis tes frères. Et puis l'autre, c'est au bord du lac de Tibériade, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? As-tu plus d'attachement pour moi que les autres ? Voilà. Et c'est ça qui a été pour moi mon décor, mon lieu spirituel où je me retrouvais. Voilà ce que j'ai essayé de... Je voudrais dire aussi, rendre hommage à certains collaborateurs, mais certains vicaires généraux que j'ai eus. André Saint-Estebin, qui a été pour moi un compagnon très intelligent et très valable, qui m'a soutenu dans beaucoup d'épreuves, qu'il a vécu avec moi. Et puis Dominique Cornu aussi. Voilà. Dominique Cornu qui a été un compagnon enjoué et plein de charisme pour les jeunes. Voilà.
Alors, Monseigneur Pierre Moller, ça fait maintenant un certain nombre d'années que vous êtes parti du diocèse de Bayonne. Enfin, parti, pas tout à fait, puisque vous habitez chez les Pères Blancs à Bières, mais que vous êtes complètement retiré de la vie diocésaine. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à votre épiscopat, où on se dit finalement j'ai fait ce que j'avais à faire et puis maintenant...
Je suis de ceux qui disent quand la page est tournée, il faut la tourner. On n'y revient pas. Mais en même temps, je suis encore dans le diocèse de Bayonne, puisque je suis à Pau, à Bièvre.
Évêque émérite du diocèse de Bayonne, d'Escar et Oloron.
Et puis, j'ai quand même... Je vois des prêtres de temps en temps, des amis, des gens qui viennent me voir. Enfin, je ne suis pas quand même tout à fait coupé. Et puis non, après, ce livre m'a permis de me retrouver dans un moment important, dans un diocèse que j'ai beaucoup aimé.
Mémoire d'évêque en Pays Basque et Béarn, les mémoires de notre évêque, émérite du diocèse de Bayonne-Escaret-Oloron, Monseigneur Pierre Moller, c'est au prix de 23 euros, c'est édité par France Libris et c'est en vente dans toutes les bonnes librairies, c'est la formule consacrée. Merci beaucoup, Monseigneur Pierre Moller, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous.
Merci à vous, Alexandre.
Milesh Kersouli est à Issa Nuncha.
Souli, Alexandre.